Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 24 février 2021. John Linden à la présentation. Tout d'abord, les titres. En Centrafrique, les forces gouvernementales ont repris Bossangoa, fief de l'ex-président François Bozizé. Au Niger, l'opposition revendique la victoire alors que la CENI a proclamé hier Mohamed Bazoum, vainqueur de la présidentielle. À Maïdougouri, au Nigeria, des tirs d'obus ont fait hier au moins 16 morts dans une attaque attribuée à des djihadistes. Pandémie de Covid-19, les campagnes de vaccination s'accélèrent dans le monde. Également dans cette édition, l'économie et les sports, mais tout d'abord, le journal. Une fois encore, bonsoir. Au Niger, l'opposition revendique la victoire à la présidentielle après l'annonce de la CENI, proclamant vainqueur le candidat du parti au pouvoir. Il y a eu des manifestations de colère dans plusieurs villes nigériennes. Le point avec Eric Manirakiza.
La compilation des résultats des PV en notre possession à travers nos délégués dans les différents bureaux de vote nous donne gagnant avec 50,3% des voix, a affirmé Mahman Ousmane depuis son fief de Zinder dans le sud-est. Dans ces zones, nos délégués ont été contraints sous la menace d'armes à feu à signer les PV sans aucune possibilité de porter des observations, a-t-il affirmé dans un discours. Cette annonce a été suivie ce matin par des heurts dans la capitale. Dans le quartier central du Grand Marché, une station d'essence a été vandalisée. La nuit a été agitée à Niamey et à Dosso où il y a eu des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. L'accès à Internet était très réduit à Niamey et à Zinder, la deuxième ville du pays. Hier, la Commission électorale nationale indépendante a proclamé Mohamed Bazoum vainqueur avec 55,75% des voix. Il a déclaré hier soir que si l'opposition a des doutes, elle doit pouvoir disposer d'éléments de preuve à transmettre à la Cour constitutionnelle.
En Côte d'Ivoire, l'ex-président et chef de l'opposition de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, a appelé mercredi à voter massivement aux élections législatives du 6 mars, appel auquel il a associé l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, avec qui il est allié. Laurent Gbagbo, justement, en liberté conditionnelle à Bruxelles, après son acquittement par la Cour pénale internationale, va rentrer en Côte d'Ivoire mi-mars. C'est ce qu'affirme ce mercredi son parti. Le ministre ivoirien de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan Bertin, avait de son côté annoncé sa prochaine rencontre à Bruxelles avec Laurent Gbagbo pour parler des modalités de son retour en Côte d'Ivoire. Dans le nord du Burkina Faso, deux femmes ont été tuées hier par l'explosion d'un engin artisanal au passage de leur charrette. Une autre personne a également été légèrement blessée par l'explosion, a indiqué une source hospitalière. Au Nigeria, le bilan des obus tirés hier par des djihadistes sur Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno, s'est alourdi à 16 morts, dont au moins une dizaine d'enfants. Plus de précisions avec Nanit Talani.
Des combattants djihadistes sont parvenus à franchir hier des fossés protégeant Maïdougouri pour pénétrer dans Kaléri, en périphérie de la ville. Puis, ils ont tiré des obus, dont deux ont atteint les quartiers populaires d'Adamkolo et de Gwangé. Des vidéos prises par des habitants montrent des centaines de personnes affolées courant dans les rues, d'autres essayant de porter secours à des blessés. Ces tirs à longue distance par les insurgés sont une nouvelle tendance. Nous avons été victimes d'une attaque similaire il y a un an pile, a rappelé le gouverneur de l'État du Borno. Maïdougouri est l'un des derniers bastions sécurisés dans le nord-est du Nigeria, théâtre d'une insurrection depuis 10 ans. Les violences ont fait au moins 36 morts et 2 millions de déplacés.
En RCA, l'armée et ses alliés se sont emparés ce mercredi de la ville de Bossangoa, fief de l'ancien président François Bozizé. La ville a été prise sans combat car les rebelles s'y sont retirés un jour plus tôt. À Bangui, pour VOA Afrique, la correspondance de Freeman Sipila.
Trois semaines après la vaste offensive lancée par l'armée centrafricaine et ses alliés russes et rwandais contre les rebelles de la CPC de l'ancien président François Bozizé, plusieurs villes sont déjà libérées. Face à la puissance de feu des forces loyalistes, les rebelles ne font que battre en retraite et perdent successivement les localités qu'ils contrôlaient. Bambari, Ipi, Bosombele, Yaloké, Boar ou encore Beloko, toutes ces villes sont libérées en un temps record. Ce mercredi, c'est la ville de Bosangwa qui est passée. C'est elle aussi sous contrôle de l'armée régulière. Bosangwa était le fief de l'ancien président François Bozizé à l'origine de la création de la coalition rebelle CPC. Pour le moment, on ignore encore où se trouve François Bozizé et sa suite. Certaines indiscrétions annoncent sa présence au Tchad. Information non encore confirmée par les autorités tchadiennes. Lundi, l'ambassadeur russe en Centrafrique, Vladimir Titorenko, a annoncé sur les médias locaux qu'il n'y aurait aucune négociation avec les rebelles dont François Bozizé. Le dialogue avec les forces vives de la nation ne se fera qu'après la libération totale du pays, a conclu le diplomate russe. Freeman Sipila Bangui pour VOA Afrique.
À l'issue de la réunion présidée mardi par le chef de l'État Félix Tshisekedi, il a été décidé que les diplomates accrédités à Kinshasa sont désormais obligés de faire connaître au préalable aux autorités leur déplacement à l'intérieur de la République démocratique du Congo après l'assassinat lundi de l'ambassadeur italien dans l'est du pays. Au moins 55 personnes ont été tuées depuis le début de l'année par une épidémie de choléra dans le nord du Mozambique. Les victimes sont des déplacés qui avaient fui les violences djihadistes, a annoncé mercredi l'UNICEF. Près de 5000 cas de choléra ont été enregistrés parmi les centaines de milliers de déplacés. Les allégations d'abus commis par des soldats érythréens pendant le conflit dans la région éthiopienne voisine du Tigré doivent faire l'objet d'une enquête rapide menée par des mécanismes indépendants. C'est la demande faite ce mercredi par un expert de l'ONU. En novembre, le gouvernement d'Addis Abeba a mené une opération militaire pour destituer les autorités régionales dissidentes du Tigré, région qui contestait l'autorité fédérale depuis plusieurs mois.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le point sur la pandémie de COVID-19 dans le monde, la distribution des vaccins s'intensifie avec parfois des problèmes logistiques. De nouveaux vaccins sont en cours d'autorisation. Les dernières évolutions, c'est avec Mouamadou Oumfa.
Les campagnes de vaccination contre le COVID-19 se poursuivent. Au moins 217 millions de doses ont été administrées selon l'OMS. Le Ghana a reçu ce mercredi 600 000 doses du vaccin de AstraZeneca Oxford. C'est la première livraison mondiale de vaccins financés par le dispositif COVAX pour aider les pays défavorisés. AstraZeneca a reconnu de nouvelles difficultés de production en Europe. Il a promis d'avoir recours à des sites de son réseau en dehors de l'Union européenne pour tenir ses promesses de livraison au deuxième trimestre. Deux compagnies chinoises, l'entreprise CanSino Biologics et l'Institut de produits biologiques de Wuhan, filiale du laboratoire Sinopharm, ont déposé une demande d'autorisation de leur vaccin, assurant que leur efficacité était satisfaisante. Si leurs demandes aboutissent, le nombre de vaccins développés en Chine, dont l'utilisation aura été approuvée, passera à 4. L'Agence américaine des médicaments, la FDA, a confirmé l'efficacité du vaccin de Johnson & Johnson qui se prend en une dose. Une efficacité de 85,9% contre les formes graves de la maladie aux États-Unis, de 81% en Afrique du Sud et de 87% au Brésil, où les variants sont largement répandus.
Des représentants d'églises évangéliques américaines ont condamné mercredi dans une lettre ouverte la radicalisation croissante de certains chrétiens aux États-Unis, une tendance illustrée par l'assaut du Capitole à Washington. Ces leaders religieux, au nombre dépassant une centaine, écrivent reconnaître et condamner le rôle joué par le nationalisme chrétien dans l'insurrection violente, raciste et anti-américaine du 6 janvier. Ce jour-là, certains des assaillants ont affirmé agir au nom du Christ, allant jusqu'à prononcer une prière publique dans l'édifice du Congrès occupé. Les États-Unis briguent un siège au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, a annoncé mercredi le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, marquant l'abandon de la politique de la chaise vide de l'administration Trump qui avait annoncé en 2018 qu'elle quittait cette institution. Nous demandons humblement le soutien de tous les pays membres de l'ONU dans notre souhait de siéger à nouveau dans cette institution, a dit M. Blinken lors d'une intervention par visioconférence devant le Conseil des droits de l'homme. La Chine représente la plus grande menace pour les États-Unis, a affirmé mercredi le candidat de Joe Biden au poste de directeur de la CIA, William Burns, qui a promis de laisser l'agence de renseignement américaine indépendante de la politique. Sur une scène internationale de plus en plus compliquée et concurrentielle, l'attitude prédatrice du gouvernement chinois représente notre plus grand défi géopolitique, a assuré l'ex-diplomate de carrière lors de son audition devant la commission du renseignement au Sénat qui doit approuver sa nomination. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et dans le monde, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nanit Talani.
En Côte d'Ivoire, le Conseil du café cacao cherche des acheteurs pour 100 000 tonnes de cacao que les exportateurs locaux n'arrivent pas à vendre à cause de la baisse de la demande liée au Covid. Le régulateur a déjà contacté des entreprises pour liquider les stocks accumulés dans les ports de San Pedro et d'Abidjan, mais les négociations patinent. Selon Reuters, le Conseil propose une baisse de 200 à 250 livres sur la tonne, tandis que les importateurs réclament une réduction de 350 à 400 livres. L'Angola veut améliorer les performances de ses entreprises publiques en charge de la distribution et de la production de l'électricité grâce à un prêt de 417 millions de dollars de la Banque mondiale et de l'AFD. Le projet va permettre l'installation de 196 500 nouvelles lignes électriques à Luanda, Benguela, Huila et Wambo. Il va accroître aussi la capacité opérationnelle, commerciale et technique des trois compagnies nationales d'électricité, Prodel, Ende et RNT. Pour terminer, la pandémie va laisser de nombreuses économies à la traîne, aggravant le sort des plus pauvres, a déploré Kristalina Georgieva, patronne du FMI, qui incrimine notamment l'accès inégal aux vaccins. Selon elle, la conséquence directe sera l'augmentation par millions du nombre de personnes extrêmement pauvres dans les pays en développement.
À présent, la page des sports avec Yakuba Ouédraogo.
Bonsoir à tous. Mauvaise nouvelle ici aux États-Unis pour commencer. La star du golf Tiger Woods, 45 ans, a été opéré après avoir subi hier des blessures multiples aux jambes après une sortie de route et plusieurs tonneaux alors qu'il circulait seul au volant de sa voiture près de Los Angeles. Wood était dans la région pour le Genesis Invitational du PGA Tour, un tournoi organisé par son organisation caritative. Le vainqueur du tournoi majeur à 15 reprises n'a pas participé à la compétition parce qu'il se remettait d'une opération au dos le 23 décembre, la cinquième de ce genre. Il a joué pour la dernière fois le 20 décembre dans le championnat PNC avec son jeune fils Charlie. Tiger Woods a remporté dans sa carrière 82 tournois du circuit américain de golf PGA à égalité avec le légendaire Sam Snead. Toujours ici aux États-Unis, l'arrière des Brooklyn Nets James Harden, le meneur des Portland Trail Blazers Damien Lillard, mais aussi le pivot des Lakers Anthony Davis malgré sa blessure qui l'empêchera sans doute de jouer, font partie des sélectionnés comme remplaçants pour le All-Star Game qui se déroulera le 7 mars à Atlanta. Ils rejoignent les titulaires à l'ouest qui sont LeBron James des Lakers, Stephen Curry de Golden State, Nikola Jovic de Denver, Luka Doncic de Dallas et Kawhi Leonard des Clippers à l'Est. Les titulaires déjà connus sont Kevin Durant, Gianni Antetokounmpo de Milwaukee, Joel Embiid des Philadelphia Sixers, Bradley Beal de Washington et Kyrie Irving. C'est le 4 mars que les capitaines James et Durant choisiront à tour de rôle, sans tenir compte de la conférence dont sont issus les joueurs, les quatre titulaires qui composeront le 5 majeur de leur équipe, puis les remplaçants. Ligue des champions en Europe, un retourné du français Olivier Giroud a permis à Chelsea de s'imposer contre l'Atlético Madrid 1-0. Hier, en huitième de finale aller dans un match délocalisé à Bucarest. Le match retour se jouera le 17 mars à Londres. Dans l'autre huitième de finale, le Bayern Munich, tenant du trophée, s'est pratiquement assuré la qualification pour les quarts en allant surclasser la Lazio à Rome 4-1. Le Bayern en est désormais à 18 matchs d'affilée sans défaite en Ligue des Champions, soit 17 victoires et un nul. Deux matchs allés au programme de ses huitièmes ce soir, Atalanta-Bergame, Real Madrid et Borussia Mönchengladbach, Manchester City. Sur le continent, Al Hilal du Soudan et le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo ont fait match nul 0-0 à Omdurman aujourd'hui, laissant les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud seuls en tête du groupe B de la Ligue des champions CAF. Sundowns à 3 points, Mazembe 2 et le CR Belouizdad et Hilal 1 point chacun. Les Algériens du CR Belouizdad et les Sud-Africains du Mamelodi disputeront leur match dimanche. Le match retardé aura lieu à Dar es Salaam, en Tanzanie, après que les autorités algériennes ont refusé d'autoriser Sundowns à entrer dans le pays en raison de la réglementation sur le coronavirus.
Merci, Yacouba. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. John Linden toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour et on commence par le Niger. Le Niger, où le candidat de l'opposition Mahamane Ousmane revendique la victoire à la présidentielle de dimanche avec 50,3% des suffrages. Hier, les résultats provisoires proclamés par la commission électorale donnent pour vainqueur Mohamed Bassoum, candidat du parti au pouvoir, avec 55,75%. Des manifestations ont eu lieu dans certaines villes, dont Niamey, où l'accès au réseau Internet a été coupé. Yacouba Ouédraogo a joint notre correspondant sur place, Abdulrazak Idrissa.
Dans plusieurs quartiers, on a constaté des effets de criers qui se levaient autour de la ville. Et des sources policières contactées par nos soins ont annoncé qu'entre hier soir et ce matin, il y a eu des arrestations dans les rangs de ces jeunes manifestants. Plus de 250 personnes qui sont arrêtées par la police. Globalement, on va dire que c'est calme parce que les jeunes, quand ils viennent dans les points de regroupement, ils décident donc de dresser les barricades. Ils brisent quelques pieds, ensuite les forces de l'ordre viennent et puis les distances, ensuite ils se transportent sur un autre lieu.
Est-ce que vous savez si les manifestations ont lieu uniquement à Niamey ou c'est à travers le pays?
En dehors de Niamey, la capitale, il y a encore, nous dit-on, quelques manifestations également à Dosso, ce qui dit qu'il n'est pas très loin de Niamey, à 140 km exactement. À Zender aussi, le chef du candidat Mahamane Ousmane, aussi, il y a eu des manifestations depuis hier. Et jusqu'à ce matin encore. Nous étions il n'y a pas longtemps même en ligne avec un confrère sur place à Bender qui nous dit que les jeunes déclarent qu'ils sont prêts, les forces de l'autre côté disent qu'elles sont prêtes.
Mohamed Bazoum a été déclaré vainqueur par la commission électorale. Son concurrent Mahamane Ousmane conteste. Qu'est-ce qu'il apporte comme élément de preuve ou qu'est-ce qui lui fait dire qu'il a gagné les élections, parlant de Mahamane Ousmane?
Mais justement, depuis Zender, où il est actuellement, Mahamane Ousmane, après la déclaration par son directeur de cabinet, peu avant la proclamation des résultats, lui-même dans la soirée, a fait sur place là-bas à Zender un point de presse devant les journalistes et il a déclaré effectivement qu'il conteste ces résultats, qu'il se déclare victorieux avec 50,3% des suffrages exprimés et qu'il va faire les recours nécessaires au niveau de la Cour constitutionnelle. Il proteste notamment, dit-il, contre les résultats de la région de Tawa, dans son ensemble, de Tagadé, mais aussi des résultats des zones nord de la région de Zender, sa ville natale, mais aussi de Maradi. Il n'est pas allé dans les détails des arguments qu'il a brandis.
Mohamed Bazoum a été déclaré vainqueur. Est-ce qu'il a tendu la main, par exemple, à Mahamane Ousmane?
Il a tenu effectivement un discours dans lequel il a remercié le peuple nigérien pour l'avoir donc porté ainsi à la tête d'habiter pour les 5 prochaines années. Parlant donc de son challenger, parti Mahamane Ousmane, il a dit qu'il espère, il compte sur lui pour que l'opposition et majorité se retrouvent pour pouvoir gérer la fête. Pouvoir donc continuer la gestion de l'État. Donc on va dire, même s'il n'a pas dit exactement, que le candidat, le président de l'Union, Bazoum Mohamed, a montré une certaine prédisposition pour travailler avec l'opposition. Et il a aussi indiqué qu'il va être le président de tous les Nigériens.
Abdulrazak Idrissa, correspondant de VOA Afrique, joint à Niamey. Au Nigeria, on est toujours à la recherche des personnes enlevées dans une école de Kagar dans l'état de Niger. Selon les autorités, des négociations sont en cours avec les ravisseurs. Un gang armé a enlevé mercredi 42 personnes, dont 27 enfants, d'un internat du district de Kagara. Dimanche, les 53 passagers à bord d'un bus de transport enlevé par des hommes armés dans le même état ont, eux, été libérés. Au sein de la population, ces négociations font l'objet de critiques. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Les autorités nigériennes estiment que toute action militaire pourrait entraîner des morts inutiles. Alors le gouvernement a engagé des négociations pour sauver les victimes. Le gouvernement de l'état de Nadia, où le rapt s'est déroulé, affirme qu'il avait pris des contacts avec les ravisseurs par l'intermédiaire des dirigeants des communautés qui, selon eux, les connaissent. Mais certains Nigériens, ne voyant pas d'un bon œil les négociations en cours, manifestent leurs inquiétudes.
Toutes ces petites négociations dans les coulisses en cours pour des rançons encouragent les mauvaises attitudes et aggravent la situation sécuritaire dans le Nord-Est. Juste en décembre dernier, nous avions vécu la plus mauvaise expérience lorsque plus de 300 enfants avaient été enlevés à Katsina.
Le fait de négocier avec ces gens les encourage. Comment nous expliquer ce qui va se passer avec les fonds du budget national qu'ils utilisent pour les négociations? C'est une forme de détournement de fonds publics. Je ne vois pas comment un gouvernement digne d'un pays doit aller négocier avec des criminels.
Un dispositif de sécurité impressionnant comprenant la police, l'armée et des unités d'agents de renseignement sont déployés pour aider à ramener les personnes enlevées. Pour Kabiru Adamu, expert en sécurité, dans cette circonstance, le gouvernement n'a pas le choix que de négocier.
Honnêtement parlant, ils n'ont aucune autre option. Dans une circonstance où les élèves ont été enlevés et se trouvent dans les mains des criminels, il n'y a pas d'autre option. L'autre option, c'est adopter une stratégie d'une force tactique qui dispose de tout moyen capable, comme nous le voyons dans les films. Mais nous n'avons pas ces moyens chez nous.
Le dernier enlèvement de masse est survenu 2 mois après le rapt de plus de 300 élèves dans une école de Kankara, dans l'état de Katsina, l'état d'origine du président Buhari, alors que le président était en visite dans la région. Ils ont été libérés après des négociations, mais l'incident a déclenché l'indignation et les souvenirs des enlèvements djihadistes d'écolières nigériennes Adapti et Chibok qui ont choqué le monde. Le cardinal John Onayikan d'Abuja s'est dit préoccupé par la situation actuelle dans son pays.
Je me demande si nous voyons les choses de la même manière. C'est ma préoccupation majeure. Existe-t-il des gens qui ont un agenda caché? Le gouvernement est-il lui-même uni? Et lorsque je parle de gouvernement, je ne parle pas seulement du gouvernement fédéral, mais aussi des gouvernements des États et des autorités locales. Nous, les citoyens, nous voulons savoir ce qui se passe.
Les enlèvements ne sont que l'un des défis sécuritaires auxquels est confronté le gouvernement de Buhari au Nigeria, où les militants mènent une insurrection djihadiste dans le nord-est et les tensions ethniques dans certaines régions du sud. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Au Tchad, de nombreux parents, surtout dans les zones reculées, ne comprennent pas toujours l'importance de l'acte de naissance de leur progéniture. C'est le cas à Mongo, dans la province du Guéra, où la question se pose avec acuité. Beaucoup d'enfants n'ont pas été enregistrés à la naissance. Une situation qui préoccupe l'UNICEF Tchad, qui appuie le gouvernement dans la sensibilisation de la population sur la nécessité et l'importance de ce document de base. André Kodmajinga, correspondant de VOA Afrique, est dans la province du Guéra. Son reportage.
L'enregistrement de naissance dans la province du Guéra pose un sérieux problème par manque de sensibilisation. Les parents ont la tête ailleurs que de déclarer la naissance de leur enfant dans un délai requis, comme en témoigne Mahamat Adelil, père de 17 enfants, dont 3 seulement ont été enregistrés à l'état civil.
On ne l'a pas fait par négligence et parfois par faute de moyens. Parce que sortir un acte de naissance, il faut payer 2 000 francs. Parfois, là, ils ont aussi leur certificat de naissance là, qu'on délivre à l'hôpital. Là. Mais au lieu de les faire valider, nous, on les garde en tant que tel.
Pour amener la population à comprendre la nécessité de délivrer un acte de naissance à sa progéniture, le gouvernement et ses partenaires, notamment l'UNICEF dans son financement multisectoriel pour le bien-être de la population, ainsi que les organisations de la société civile, misent sur la sensibilisation. Des équipes sont passées dans les églises, mosquées et lieux publics pour parler de l'importance de l'acte de naissance aux parents. Une sensibilisation qui semble trouver un écho favorable. Mahamat Adelil affirme à VOA Afrique que deux de ses enfants sur 17 ont déjà eu leur acte de naissance.
Maintenant, on a su que l'acte de naissance, ça se donne gratuit. C'est pour cette raison-là que nous étions mobilisés et nos derniers enfants qui sont devant vous, là, ils ont leur acte de naissance. Les grands qui ont atteint un certain âge, ils en ont. Les petits également, ils en ont. Mais ceux qui sont au milieu, là, ils n'en ont pas.
C'est aussi le cas d'Abdrahim Abdoulaye, père de 8 enfants, dont 3 ont eu leur acte de naissance grâce à cette sensibilisation.
Le premier enfant, c'est le chef des Caribéens qui est venu. Il a pris les données. Après, il est parti à la mairie pour nous chercher l'acte de naissance. Le deuxième, c'est que ma femme a couché. Je suis parti pour lui donner les renseignements. Et puis, il nous a amené l'acte de naissance. Et puis, le troisième, c'est moi-même qui est allé vers lui. Donc, compte tenu de l'évolution et puis l'importance même de l'acte de naissance, qu'on nous a fait savoir. Puisque l'acte de naissance, là, c'est là qui permet d'avoir la nationalité.
Pour Mme Nekarno Diomban Myriam, déléguée de l'action sociale de la province du Guéra, avec l'implication de l'UNICEF, la tendance est en train d'être renversée dans sa zone de responsabilité.
En 2015, on était à 7,8% de naissance dans la province du Guéra. Et depuis que notre partenaire UNICEF est en train d'appuyer la délégation provinciale de l'action sociale via les comités de protection, qui sont les mécanismes de protection communautaire de l'enfant, il y a eu des progrès assez remarquables. Maintenant, nous sommes à 38% d'enregistrement de naissance par rapport à l'année 2015.
L'enregistrement de l'enfant constitue un premier droit fondamental pour ce dernier, estime Mme Nekarno Diomban Myriam. À ce titre, elle invite tous les parents à enregistrer gratuitement leur progéniture dans ce délai requis que de débourser beaucoup d'argent pour établir le même acte en dehors du délai accordé. André Kodnumadingar, au pied de la reine du Guéra, pour VOA Afrique.
Et c'est la fin de ce journal à la mise en nom de Lionel Gaïma, Michel Joseph, Georges-Léonard Sagnot et Joselle Morissin. À la présentation, John Linden, édition en chef Idriss Fall. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le président Joe Biden a qualifié la Chine de concurrent le plus sérieux des États-Unis et a clairement indiqué qu'il était prêt à relever les défis que représente ce pays.
We'll confront China's economic abuses. Counter its aggressive, coercive action.
Nous allons faire face aux abus économiques de la Chine et contrer sa ligne de conduite agressive pour repousser son attaque contre les droits de l'homme, la propriété intellectuelle et la gouvernance mondiale. Le président Biden a également déclaré que les États-Unis sont prêts à engager des discussions avec la Chine à partir d'une position de force. Dans une récente interview télévisée à CNN, le secrétaire d'État Anthony Blinken a souligné qu'une position de force signifie des alliances fortes. « C'est une source d'avantage pour nous, n'est pas dénigrer nos alliés », dit-il. Cela signifie se présenter à nouveau dans le monde pour discuter, parce que si nous ne le faisons pas, la Chine occupera le vide. Le secrétaire d'État Blinken a également dit que s'engager à partir d'une position de force signifie défendre nos valeurs. Ne pas les abdiquer quand nous voyons l'abus des droits des Ouïghours au Xinjiang ou celui de la démocratie à Hong Kong, a déclaré le secrétaire Blinken, cela signifie nous assurer que nous adoptons une posture militaire qui dissuade de l'agression et cela signifie investir dans notre propre peuple afin qu'il puisse soutenir efficacement la concurrence. Lors d'un entretien téléphonique entre le secrétaire Blinken et le haut diplomate chinois Yang Zingshi, M. Blinken a souligné que les États-Unis continueront de défendre les droits de l'homme et les valeurs démocratiques à Hong Kong, au Tibet et au Xinjiang. Il a noté que les États-Unis travailleront avec leurs alliés et partenaires pour défendre nos valeurs et nos intérêts communs afin de tenir la République populaire de Chine responsable de ces efforts menaçant la stabilité dans la région Indo-Pacifique, y compris de l'autre côté du détroit de Taïwan. Il a également pressé la Chine à se joindre à la communauté internationale pour condamner le coup d'état militaire en Birmanie. Le président a été clair sur le fait qu'il veut mettre et va remettre les droits de l'homme et la démocratie au centre de notre politique étrangère, a déclaré le secrétaire Blinken à CNN. Et donc, que ce soit la Chine ou tout autre pays où nous avons des préoccupations profondes et sérieuses, cette question sera à l'avant-plan.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.